Vous écoutez France Musique.
Bonsoir Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin c'est impossible. Le tennis c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue dans le Parti d'Anjouet, bon dimanche soir à l'écoute de France Musique et à l'écoute des jeunes musiciens. Ce soir, je reçois une pianiste qui vient d'une ville qui est aussi un pays. Le grand et le petit, le micro et le macro, détails et éléments de structure, elle connaît et réconcilie ces deux échelles en les harmonisant grâce à la caresse de l'ivoire et de l'ébène. Nous passons une heure en tête-à-tête ce soir avec Cathy Crier.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s.
Bonsoir, Cathy Crier.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Bon, alors je le dis pour les auditeurs du Parti d'Anjouet, vous avez un rire incroyable. Alors du coup, je vais... Bon, alors, je ne pensais pas que ça marcherait du premier coup.
Ah, mais ça marche tout de suite.
Prépare une blague quand même, parce que...
On n'a pas besoin des blagues.
Non, bah alors c'est super d'avoir un rire comme ça. Ça veut dire que dans la vie, vous êtes plutôt joyeuse ?
Oui, plutôt joyeuse et souriante, oui.
Vous habitez à Luxembourg ou au Luxembourg ? Qu'est-ce qu'il faut dire ?
Bah, ça dépend. Donc, le Luxembourg, ce n'est pas que la ville... On a aussi d'autres villes, certes très 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 petites, mais il y a plus que le Luxembourg-ville. Mais j'habite au Luxembourg, à Luxembourg-ville.
D'accord. Est-ce qu'on est speed à Luxembourg?
Ça dépend, mais c'est plutôt, disons, un pays quand même assez tranquille. Tout est à petite échelle, donc c'est assez plaisant pour y vivre.
Alors, on va ouvrir votre partie d'Anjouet, Cathy Crier, non pas avec vous, on vous écoutera dans Yana Tchèque. Mais avec une de vos premières émotions musicales, Schubert, la Wanderer Fantasy. Pour ouvrir votre partie d'enjeu, qu'a-t-il écrire la Wanderer Fantasy de Franz Schubert, interprétée par Paul Lewis. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette situation si particulière de la première motion, cette situation qui vous accompagne aujourd'hui et qui vous accompagnera toute votre vie? Quelle était la situation?
En fait, la Wanderer, c'est la première pièce que j'ai entendue en concert au théâtre au Luxembourg. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais 3 ans, ma mère m'avait ramené avec elle à mon premier récital, c'était Brigitte Angerer. Et je me rappelle de tout, je me rappelle de mes vêtements, je me rappelle de, comme si c'est encore très très palpable comme souvenir. Et je me dis, quand je vois maintenant des amis qui ont des enfants de 3 ans, que ma mère était quand même très optimiste de me prendre avec à cet âge-là. Mais c'est vraiment un souvenir extrêmement marquant et j'ai glorifié cette pièce pendant des années et des années et des années. Et c'est cette année, la première fois que je m'y attaque vraiment en ayant assez de courage de travailler.
Oui, s'attaquer à sa première émotion, c'est,
voilà.
C'est impressionnant, j'imagine.
Oui, c'est très impressionnant et on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc j'ai quand même attendu un peu plus longtemps que
Et quand vous transmettez, Cathy Krier, quand vous transmettez... dans ce qu'on appelle des concerts pédagogiques, bon, c'est un petit peu, c'est une catégorie un peu particulière, mais à des jeunes enfants, vous m'avez dit être très surprise par les réactions et par la spontanéité. Est-ce que dans ces moments de transmission peut émerger aussi une émotion du type de celle que vous décrivez? Parce qu'on vit dans une société où on pense que pour apprécier, il faut en savoir déjà pas mal.
Oui, je pense qu'en fait, ce que j'aime bien dans ces concerts pédagogiques, et en général, quand il y a des enfants à des concerts, ils ne sont pas encore formatés. Ils aiment ou ils n'aiment pas, ils ont pas cette... on leur a pas inculqué que la musique contemporaine, c'est bizarre, ou qu'il faut aimer Chopin, ou des choses comme ça. Et donc, c'est très direct comme émotion. Soit ils aiment, soit ils détestent, et ils le disent aussi assez franchement. Et je pense que mon frère et moi... avons eu la chance de naître et de grandir dans une famille très ouverte à l'art. On nous prenait avec dans beaucoup de concerts et dans beaucoup de musées. C'était vraiment très, très normal chez nous. Et je pense que tous les enfants n'ont pas cette chance-là. Et de ce point de vue-là, ces concerts pédagogiques sont très importants pour initier aussi des gens à la musique et à l'art et à la culture en général.
Deuxième quatuor à cordes de Béla Bartók, chant d'orgue, grand quatuor. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de cette idée de transmission, hein. On va parler un peu de vos débuts aussi, Cathy Krier. Vous avez quel âge d'ailleurs?
29.
29. Attention, le cas de la trentaine vous guette.
Ouh, qui sait.
Mais de la transmission, parce que cette pièce du deuxième quatuor de Bartók, c'est la première pièce que vous analysez et vous prenez conscience qu'en fait, sous le vernis, sous cette surface des émotions, se cache une structure. Et la structure en musique classique, c'est assez important. On peut se gargariser des formes, on peut se gargariser des styles, mais il y a quand même une fascination pour les choses bien faites, costauds, qui durent. C'est un petit peu comme un bâtiment.
Oui, c'est vrai. En fait, j'ai toujours été très attirée par la musique de Bartók aussi enfant. J'adorais ça. Et quand on est enfant, on ne comprend pas pourquoi. On sait juste que c'est quelque chose qui nous plaît. C'est vrai que ça m'a ouvert un autre monde en comprenant comment c'était fait. Et depuis toujours, je suis très intéressée à la structure des choses. Je pense que c'est ça qui fait perdurer une œuvre en comparaison à une autre, que la structure et le fonctionnement de l'œuvre est tellement inhérente et marche tellement bien qu'elle sera comprise de siècle en siècle. Et oui, ça m'a vraiment ouvert, ça a élargi énormément mes horizons, ça c'est sûr.
L'intensité dans la précision. C'est vrai que on en parlait beaucoup de cette idée-là.
Oui.
Que le but, c'est pas de déborder, c'est pas de dégouliner, quoique certains concerts peuvent le laisser penser. Mais l'intensité dans la précision, comment on l'apprend? Et surtout, comment on peut imaginer la transmettre?
Je pense que c'est assez difficile. Donc, J'ai fait mes études d'abord chez un professeur russe où le son était le plus important, d'avoir un joli son. Le son était vraiment la base de chaque œuvre.
Et d'autant plus que pour un pianiste, où il y a quand même pas mal d'obstacles entre la pulpe de vos doigts, votre pensée, la chose mentale, la pulpe des doigts, la touche, le marteau, la corde, la résonance, les oreilles du public.
Oui, non, c'est vrai. Et puis on n'a pas la chance, comme par exemple un violoniste, il a son instrument vraiment tout près de lui, ou un violoncelliste embrasse son instrument. Et nous, on est quand même un petit peu assis comme... oui, à une machine à écrire, quoi. Ça peut être vraiment totalement dactylographique. Donc le son est extrêmement important, d'avoir une très très bonne conscience de comment le faire, comment le changer. Et c'est quand même aussi de l'ordre du très subjectif. Et c'est que vraiment avec le temps et avec d'autres rencontres que je me suis rendu compte que pour moi la précision et l'exactitude de l'exécution de la partition était très importante pour moi.
Comment ça se travaille le son? Comment on en prend conscience dans le corps? Parce qu'il faut toujours jongler avec le corps et l'esprit. Hein.
Enfin, mais c'est vrai je sais c'est, pas.
Pavel Gililov, c'est ça
vous, oui.
Vous, bon, c'est vrai que moi j'enquêtais un petit peu sur ce pianiste-là et il revenait quand même toujours à cette idée que pour faire le son, il fallait quelque part s'affranchir de marteaux, de touches.
Oui, lui, il nous disait toujours ne frappez pas du bois. Hein. Il faut avoir l'impression que les touches flottent dans l'air. Il faut surtout pas frapper du bois. Et je pense que ce sont des images comme ça très très poétiques qui font qu'on comprend comment faire, mais c'est quelque chose de très subjectif et absolument pas palpable.
Alors vous parliez de flotte dans l'air. La transition est toute faite avec la prochaine pièce de Bartók, toujours en plein air. Vous êtes plutôt du matin ou du soir, Cathy ?
Plutôt du soir.
Alors, musique nocturne. Thank you. musique nocturne, tout à fait de circonstance, mais en plein air. Il y a peu de chances que de votre côté du poste, comme du nôtre, vous soyez en plein air. Le très grand Gueorgui Chandor, c'est un pianiste qui vous est très cher. Cathy Cré, vous êtes avec nous dans la partie d'en jouer, vous avez 29 ans, vous êtes pianiste. Et alors là, on se dit, mais quelle poésie.
Oui, c'est juste, pour moi, en plein air, c'est une des œuvres les plus magnifiques du répertoire pour piano. Et je pense que Chandor le joue tellement bien, et aussi Bartok en général, parce que c'est très précis, sans jamais devenir brutal. Et je pense que c'est la faute que beaucoup de musiciens font, qu'on va chercher une certaine brutalité, une dureté dans Bartok, qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas. C'est plutôt quelqu'un de très précis, de très concis dans ses idées, et de très pointilleux, mais d'en faire une brute, comme ça, je ne comprends pas trop, en fait.
Oui, le contresens, oui. Ça, ce serait intéressant de décortiquer pourquoi certains pianistes en arrivent à considérer la musique pianistique de Bartok comme étant quelque chose qui doit être assez métallique, qui doit claquer.
Je pense parce que il y a quand même beaucoup de fortissimo et de grandes différences dans les dynamiques, dans ces partitions. Et il y a beaucoup, beaucoup d'accents. Et je pense qu'ils font erreur là-dessus. Ça doit être très précis et très, très, très incisif. Mais c'est pas parce qu'il a écrit fortissimo qu'il faut tout de suite y aller à l'âge de guerre. C'est pas. Et mon professeur, Pavel Gilov.
Fortissimo murmuré, et pianissimo sonore, c'est un peu Albéniz qui disait ça aussi au XXe siècle.
Ouais. Et Gilov nous disait toujours que les accents montrent une note importante.
Eh oui.
Et je pense que c'est ça, et même dans Bartok aussi. Et quand on écoute Chandor, qui était quand même un élève de Bartok, on voit que c'est extrêmement précis, mais c'est jamais brutal.
Et que l'accent n'est pas forcément que d'intensité.
Voilà.
Il peut être aussi d'une autre couleur.
Voilà.
Intéressant tout ça. Ça me faisait penser à votre petit frère qui est pilote d'avion aussi.
Oui.
sur l'idée d'intensité dans la précision, parce que
c'est ce
qu'il faut quand on conduit un avion. Et comment on l'apprend. Et cette idée de brutalité, c'est vrai qu'elle est intéressante. Vous avez choisi de délaisser le violon parce que vous avez commencé par le violon, Cathy Cré.
Oui, oui.
Et vous avez décidé de continuer avec le piano parce qu'on était assis.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Par pur fainéantisme. Oui, c'est vrai. Non, j'ai commencé, il y a des très belles photos de moi à 3 ans avec un petit violon, avec deux nattes. Et avec mon papa qui est violoniste. Et mon papa ne voulait pas me laisser asseoir. Et puis j'ai dit, alors je fais du piano avec maman, voilà.
Mais c'est vrai que ça vous paraît bizarre de jouer debout de la musique ?
Non, mais je pense que j'étais juste fainéante et je voulais être assise et je ne connaissais pas le violoncelle à cette époque, donc j'ai choisi le piano parce qu'on en avait plusieurs à la maison, donc voilà.
Alors avec Bartok et Gueorgui Chandor, j'ai l'impression qu'on est au cœur de votre sensibilité, Cathy Cré.
Oui, tout à fait.
Vous avez déjà joué du Scriabine ?
Deux pièces.
Ça ne vous parle pas ?
Non, pas vraiment.
Pas moi, comme ça dépend. Alors ce qui vous parle, c'est le son d'Émile Gilels.
Oui.
Thank you.
Il y a des grands moments de musique, et à chaque fois qu'on réécoute ça, on se dit quand même « waouh ».
Ouais.
Premier concerto de Brahms, le Philharmonique de Berlin, Eugène Jeroen à la baguette, et puis surtout Émile Gilels au piano. Et en réécoutant cela, Cathy Krier, je ne sais pas ce que vous vous dites, on a une main gauche qui est titubante, une simplicité qui pose quand même question, parce que c'est comme si notre époque avait un espèce d'existentialisme mal placé. On est émerveillé par ces formes de simplicité d'interprétation.
Oui, c'est en faire trop, on gâche beaucoup souvent, je pense. Et Gilels, qui est pour moi un de mes héros vraiment, a la grandeur de s'en tenir juste au texte, en ayant un son naturellement juste phénoménal. Et ce que je trouve tellement beau, c'est que Gilels, ou comme Richter, ou d'autres aussi de cette époque-là, on les reconnaît. On les reconnaît. Et c'est quelque chose qui, dans notre époque, est devenu rarissime, je pense.
Et puis cette main gauche, c'est vrai que c'est une main gauche qui nous raconte quelque chose, qui titube, qui donne l'impression, voilà, qui met en scène cette simplicité fragile,
oui.
Si le terme est adapté.
Oui, je pense aussi. C'est à un moment donné, c'est quand même un concerto énorme, gigantesque. Et il réussit à un moment donné d'insérer une fragilité comme ça qui est extrêmement émouvante et touchante et qui rend le tout encore beaucoup plus grandiose que s'il en avait fait beaucoup plus.
Est-ce que dans les différents conservatoires, parce que vous êtes allé à Cologne, mm-hmm. Cathy Krier,
oui.
Avant d'aller à l'Instituto di Musica di Fiesole,
oui.
en Italie avec Andrea Lucchesini. Bon, on se dit quand même que l'apprentissage musical travaille beaucoup sur parfaire une forme de musculature, de gymnastique digitale, de forteresse,
mm-hmm.
et que cette idée de fragilité, finalement, elle passe souvent à la trappe. Est-ce que ça, vous l'avez appris avec vos différents professeurs ?
Je pense que j'ai eu énormément de chance avec les professeurs que j'ai eus, d'abord en rencontrant Guy Leloff à 13 ans, et d'avoir quelqu'un qui était prêt à me laisser du temps, et qui, si j'avais besoin... En fait, son créneau, c'était il fallait comprendre les pièces par soi-même. Donc si j'avais besoin de 10 cours pour comprendre quelque chose, mais il me donnait 10 cours. J'ai jamais eu le...
Et comprendre, ça veut dire quoi ?
Comprendre par moi-même comment cela devait être. Et aussi trouver moi-même la voie musicale. Parce que souvent, on peut trouver des professeurs qui vous disent comment faire, et vous savez qu'ils ont raison, mais on n'est pas encore à ce stade de pouvoir l'accepter et de l'intégrer vraiment. Et je pense que là, j'ai eu énormément de chance avec Guy Leloff qui m'a vraiment laissé me développer moi-même et aussi laissé développer mon répertoire de prédilection. Et quand je vois tous mes amis qui étaient dans sa classe aussi, on joue tous des choses totalement différentes. Ce que je pense est une grande chance et qui n'est pas le cas dans beaucoup de classes. Et puis, naturellement, après, Lucchesini, c'était totalement différent. Hein. Lucchesini, j'y suis allée, j'avais 25 ans. Donc, j'avais quand même déjà une technique vraiment formée. Et là, c'était tous les mois un autre programme. Et je ne veux plus l'entendre une deuxième fois. Donc, et ça m'a aussi beaucoup aidée à cette époque-là, parce que ça m'a appris à m'affranchir et à faire ce que moi, je voulais. Et vraiment être très claire là-dessus. Et voilà.
Thank you.
La sonate pour piano de Berlioz, interprétée par Andrea Lucchesini. Dans votre partie d'enjeu, qu'a écrit Andrea Lucchesini, c'est votre professeur, dédicataire de la sonate.
Oui.
Que vous avez eu à l'Instituto di Musica di Fiesole, avec une petite anecdote de concert.
Oui, je me rappelle, c'était en Allemagne. Il avait été invité par une salle dans un cycle de sonates de Beethoven où il devait jouer la Hammer clavier. Il l'avait mis ensemble avec la sonate de Berlioz. Et en fait, il n'a pas fait attention. Et dans le contrat, il a lu pianoforte, mais il n'a pas fait le lien que pianoforte en allemand voulait pas dire pianoforte, piano comme en italien. Et donc, il arrive à la salle de concert, il voit le pianoforte et donc panique quand même totale. Et donc, il a rapidement essayé de s'approprier la Hammer clavier sur un Hammer clavier de l'époque. Et donc, on lui a mis un Steinway pour la sonate de Berlioz parce qu'il leur a expliqué que c'était quand même pas possible sur un Hammer clavier. Et donc, je me rappelle du concert. Donc, c'était un cycle de pianoforte, donc un public un petit peu snob, bourgeois, vieillot, qui s'attendait donc à entendre Hammer clavier sur pianoforte, et qui, avec Berlioz, mais était totalement choqué, et il y avait des gens qui se bouchaient les oreilles. Et moi, ça m'a énormément marqué et choqué, et je me suis dit, c'est quand même grave d'avoir des gens qui sont tellement fermés d'esprit et ne veulent pas du tout entendre quelque chose de nouveau, et ne sont pas d'accord ne veulent même pas essayer de comprendre.
La musique peut être idéologique, hein, très souvent. Est-ce qu'il y a des musiques que vous n'osez pas aborder, Cathy Krier ?
Je pense qu'il y a des musiques où je sais que ce n'est pas forcément de mon goût, donc je pense que je n'ai rien à dire dans cette musique-là. Je ne me vois pas du tout jouer Rachmaninoff, par exemple. Et quand j'ai intégré Cologne chez Guy Hilleuf, moi je ne savais pas qu'il était très connu pour le répertoire romantique, et à cette époque je lui ai dit, écoutez, moi je joue tout ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille avec Chopin et Schumann.
Et qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Vous ne vous bouchez pas les oreilles comme...
Non, mais depuis mon enfance, j'ai un sérieux penchant pour l'époque classique et le XXe siècle. Pendant mes études au conservatoire à Luxembourg, j'avais vraiment beaucoup joué de Schumann, parce que c'est quand même une très très bonne école pianistique, et je pense que là j'en avais juste marre. Et Chopin, j'ai toujours trouvé ça très très kitsch. Mmh. Et Guy Hilleuf m'a ouvert les portes du langage de Chopin, et depuis j'apprécie beaucoup, mais Schumann reste encore toujours... j'ai pas envie de travailler Schumann. Bon, ça viendra peut-être. Hein.
Je vous dis ça parce que c'est vrai que la prochaine œuvre qu'on va écouter, c'est une interprétation aussi à sa manière assez géniale. Maria Iudina dans Les Diabelli de Beethoven. Et Iudina disait « Je n'ose pas encore jouer sa musique, je peux observer les étoiles et les planètes, mais je suis toujours ébloui par le soleil. Je ne peux pas jouer sans voir. » Et je trouve cette citation absolument incroyable, sachant qu'elle venait souvent sur scène en jetant aucun regard au public, en négation totale du public, quasiment les yeux fermés, prière rituelle, elle s'assied au piano, et puis avec un petit Kleenex sur le visage, sur les touches du piano, mais public, vous n'existez pas, vous n'êtes que pollution.
Oui.
Je fais mon rituel de prière qui s'appelle concert.
Oui, c'est magnifique comme idée. Je pense que c'est, bon, c'était un caractère très spécial, donc je ne pense pas qu'on peut, puisse l'apprendre comme généralité dans le monde de la musique. Mais je pense que c'est important, à un moment donné, quand on joue des concerts, naturellement, on veut donner au public, mais il faut aussi rester totalement focalisé sur soi. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on atteint le meilleur de nous-mêmes.
Thank you.
C'est l'immatériel qui prend forme ici dans votre partie d'Enjouer Cathy Krier avec la grande Maria Yudina en 1961 au Conservatoire de Moscou. Dans ce largo et cette fugue des variations Diabelli de Beethoven, alors il y aurait tellement de choses à dire, mais la première impression, c'est que bien sûr, il n'y a pas de concession.
Non, aucune.
C'est ce que disait son professeur Léonid Nikolaïev, que quand elle a joué une fugue, chaque voix avait son propre timbre, et puis qu'il y a cette impression aussi de prêche, de sermon. Franchement, on pourrait être aux États-Unis au début du XXe siècle avec un révérend noir qui ferait un preacher song. C'est exactement pareil, quoi. Il y a un côté rituel absolument incroyable. Et puis, pas beaucoup de concessions. C'est vrai que cette notion-là, ce qu'on peut définir comme étant un monde interprétatif sans concession, c'est quand même difficile à cerner parce que tout dans notre société nous contraint à rentrer dans des cases, dans des catégories, dans des formats, dans la peur de la fausse note, en considérant que ce qui est important, c'est justement de l'éviter, alors que c'est juste de ne pas s'en faire.
Ouais.
Ça veut dire quoi, jouer sans concession ?
Je pense qu'à un moment donné, quand on travaille, on essaye d'atteindre une certaine perfection technique, certes, mais puis après, il faut aller au-delà de ça. Et je pense qu'avec Yudina, c'est un exemple juste magnifique que, à un moment donné, elle y va sans réfléchir, c'est comme ça, et elle essaie pas de plaire à quelqu'un. Et je pense que c'est ça aussi, de nos jours, tout le monde veut plaire, alors que parfois on plaît plus en faisant juste ce qu'on a vraiment envie de faire, et en étant très très réel dans ce que nous faisons. Et pour ça, je pense qu'elle est un des meilleurs exemples.
Alors, c'est ce qu'elle disait aussi à propos de ce cycle, qu'elle a beaucoup joué, les Diabelli, le cycle grandiose des modifications et des métamorphoses. Alors, c'est vrai que si on est sur une recherche spirituelle et qu'on considère que la musique, c'est une recherche privilégiée vers la spiritualité, vers un accès, une forme de communication avec ce qui nous dépasse, c'est le propre de l'homme, ce cycle-là est très important. Puis on revient quand même à la question de la structure. Comment une structure peut vous émouvoir ? Comment ce chemin de modification et de métamorphose dans la musique classique, c'est un peu ça qui est fascinant.
Je pense que là aussi, les Diabelli, quand on voit le thème initial, qui est quand même assez stupide, hein, c'est vraiment pas de la grande musique, et quand on voit ce que Beethoven réussit à en extraire, on ne peut qu'être totalement magnifié devant cette prouesse déjà de composition. Et puis, là, on voit que Beethoven est juste un des tout grands maîtres, parce que ça, je pense que cette musique renferme tout. Ça va du plus religieux des largos à une fugue qui est quand même dans l'autre extrême, sans aucune transition. Et c'est ça qui est fascinant, je pense. Et c'est ça qui rend cette musique aussi difficile.
Un extrait du premier concerto de Chostakovitch pour violoncelle, Rostropovitch, l'orchestre de Philadelphie, Eugène Normandie. Alors c'est quelque chose, on aurait pu aussi passer au Oistrakh qu'à t'écrire pour le son.
Ouais.
On se disait quand même, c'est dur à dire parce que vous sentez les mitraillettes qui se lèvent, mais le lait peut être beau. Quand le beau arrive à intégrer toutes les dimensions, toute la palette expressive que nous pouvons entendre, nous, on se dit que c'est une œuvre d'art totale.
Ben, je pense que je ne sais pas pourquoi en musique tout doit toujours être beau. Si vous imaginez lire des livres où tout le monde est tout le temps joyeux, heureux, c'est inintéressant. Et de même en art plastique. Et bizarrement, pour la musique, les gens veulent avoir du beau. Et je pense que surtout dans la musique de Chostakovitch et dans d'autres musiques, il faut avoir le courage de jouer laid parfois et d'aller plus loin que juste une beauté très superficielle. Et dans Janáček aussi, je pense qu'il y a toute ce côté très dur et intense et destructeur que la vie a aussi, et qu'il faut avoir le courage de laisser ça laid. Et ça, je trouve que ça embellit énormément la chose, contradictoirement, mais c'est ça qui est
un peu le vernis hollywoodien.
Voilà, je pense que c'est... Moi, j'ai pas envie de lire des livres où tout le monde est heureux tout le temps, donc je comprends pas pourquoi il faut... Les gens cherchent à avoir la même chose en musique.
Et comment on transcrit ça au piano, cette dimension du sale, du laid?
Je pense que c'est dans l'exécution, la précision de l'exécution et s'en tenir au texte. Et par exemple, dans Janáček, c'est un des rares compositeurs où j'ai lu Kondoretsa, par exemple. Donc vraiment avec dureté. Et je pense qu'il ne faut pas essayer d'embellir ça. Si le compositeur veut avoir quelque chose avec une certaine dureté, il faut le faire. Et il faut essayer de cultiver ça aussi sans pour autant aller dans le brutal ou des choses comme ça. Mais c'est très important. Et ça agrandit la musique et ça lui donne une toute autre dimension.
Est-ce que le propre de l'expression, parce que vous parlez de Janáček, on va justement se quitter avec Dans les brumes que vous avez enregistrées, mm-hmm. aussi la sonate de 1905 mm-hmm. et puis quelques autres pièces. Parler de la brutalité, c'est vrai. Est-ce que justement le propre de l'expression, ce ne serait pas de ne jamais se laisser définir dans une couleur unique?
Oui, je pense. C'est tout à fait ça.
Dans les brumes, là, on va l'entendre justement. Mm-hmm. Il y a le titre dit bien ce que c'est, mais bon, un peu facile comme métaphore, mais de ne jamais se laisser enfermer par l'intention elle-même. Ce qui est quand même compliqué, parce que toute musique naît d'une intention, d'une interprétation,
oui.
Mais elle ne doit pas être si lisible que ça, parce que si elle est si lisible, elle est catégorisable, définissable, et puis qu'elle est fixée, figée.
Oui.
Elle est...
oui, tout à fait. Et puis, l'intention peut avoir plusieurs degrés, je pense. Je ne pense pas qu'un compositeur se dise « Ah, maintenant, je vais écrire quelque chose de beau ». Il y a plusieurs intentions et il faut et plusieurs catégories et caractéristiques de cette intention. Et c'est à l'interprète de les reconnaître et de les transmettre et traduire au plus près de l'intention du compositeur.
Alors on va se quitter avec Dans les brumes, qu'a-t-il écrit ?
Oui, merci.
Un dernier mot pour les auditeurs du Parti d'en jouer ? Ça vous évoque quoi, cette musique qu'on va entendre là ?
Mais tout à fait ça, en fait, une musique non catégorisable, très forte par le changement d'émotion constant et très intense.
Merci beaucoup, Cathy.
Merci aussi.
Thank you.
Bah oui, pour refermer ce parti dans le jouet avec vous, Cathy Krier, bah c'est vous au piano ici dans Les Brumes, le deuxième mouvement de Jana Tchèque. On disait c'est un peu les 3B, hein, Brahms, Beethoven, Berlioz.
On a un petit 3. Peu, oui.
Ah bah, je suis content d'entendre une dernière fois votre rire.
De rien.
Un grand merci à vous, Cathy Krier, pour ce parti dans le jouet. Merci à Eric Lancien qui a réalisé cette émission. Jean-René Bonissant m'a aidé à la préparer. Michel Mestre à la prise de son et au mixage. Passez un bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. Bientôt 22h, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau, comme si vous y étiez. Bah oui, vous y êtes. Bonsoir, Jérémy.